En ce moment, toutes les cloches de la ville sonnèrent l'heure du couvre-feu. Loi tombée en désuétude, mais dont l'observance subsistait dans les provinces, où tout s'abolit lentement. Quoique les lumières ne s'éteignissent pas, les chefs de quartier firent tendre les chaînes des rues. Beaucoup de portes se fermèrent, les pas de quelques bourgeois attardés, marchant en troupe avec leurs valets armés jusqu'aux dents et portant des falots, retentirent dans le lointain. Puis, bientôt, la ville, en quelque sorte garrottée, parut s'endormir et ne craignit plus les attaques des malfaiteurs que par les toits. À cette époque, les combles des maisons étaient une voie très fréquentée pendant la nuit. Les rues avaient si peu de largeur en province, et même à Paris, que les voleurs sautaient d'un bord à l'autre. Ce périlleux métier servit longtemps de divertissement au roi Charles IX dans sa jeunesse, s'il faut en croire les mémoires du temps. Craignant de se présenter trop tard à maître Cornelius, le gentilhomme allait quitter sa place pour heurter à la porte de la malmaison, lorsqu'en la regardant, son attention fut excitée par une sorte de vision que les écrivains du temps eussent appelée « cornue ». Il se frotta les yeux comme pour s'éclaircir la vue, et 1000 sentiments divers passèrent dans son âme à cet aspect. De chaque côté de cette porte se trouvait une figure encadrée entre les deux barreaux d'une espèce de meurtrière. Il avait pris d'abord ces deux visages pour des masques grotesques sculptés dans la pierre, tant ils étaient ridés, anguleux, contournés, saillants, immobiles, de couleur tannée, c'est-à-dire brun. Mais le froid et la lueur de la lune lui permirent de distinguer le léger nuage blanc que la respiration faisait sortir des deux nez violâtres. Puis, il finit par voir, dans chaque figure creuse, sous l'ombre des sourcils, deux yeux d'un bleu faïence qui jetaient un feu clair et ressemblaient à ceux d'un loup couché dans la feuillée, qui croit entendre les cris d'une meute. La lueur inquiète de ses yeux était dirigée sur lui si fixement qu'après l'avoir reçu pendant le moment où il examina ce singulier spectacle, il se trouva comme un oiseau surpris par des chiens à l'arrêt. Il se fit dans son âme un mouvement fébrile, promptement réprimé. Ces deux visages, tendus et soupçonneux, étaient sans doute ceux de Cornelius et de sa sœur. Alors le gentilhomme feignit de regarder où il était, de chercher à distinguer un logis indiqué sur une carte qu'il tira de sa poche, en essayant de la lire aux clartés de la lune. Puis il alla droit à la porte du torsonnier et y frappa trois coups qui retentirent au-dedans de la maison, comme si c'eût été l'entrée d'une cave. Une faible lumière passa sous le porche, et par une petite grille extrêmement forte, un œil vint à briller. « Qui va là ?»« Un ami envoyé par Osterling de Bruges. »« Que demandez-vous ?»« À entrer. »« Votre nom ?»« Philippe Goulenoir. »« Avez-vous des lettres de créance ?»«
Les voici. »«
Passez-les par le tronc. »
« Où est-il ?»«
À gauche. » Philippe Goulenoir jeta la lettre par la fente d'un tronc en fer au-dessus de laquelle se trouvait une meurtrière.
« Diable ! » pensa-t-il, « on voit que le roi est venu ici, car il s'y trouve autant de précautions qu'il en a pris au Plessis. »
Il attendit environ un quart d'heure dans la rue. Ce laps de temps écoulé, il entendit Cornelius qui disait à sa sœur « Ferme les chausse-trappes de la porte !» Un cliquetis de chaînes et de fer retentit sous le portail. Philippe entendit les verrous aller, les serrures gronder. Enfin, une petite porte basse, garnie de fer, s'ouvrit de manière à décrire l'angle le plus aigu par lequel un homme mince put passer. Au risque de déchirer ses vêtements, Philippe se glissa plutôt qu'il n'entra dans la malmaison. Une vieille fille édentée, à visage de rebec, dont les sourcils ressemblaient à deux anses de chaudron, qui n'aurait pas pu mettre une noisette entre son nez et son menton crochu, fille pâle et hâve,
creusée des tempes et qui semblait être composée seulement d'eau et de nerfs, guida silencieusement le soi-disant étranger dans une salle basse, tandis que Cornelius le suivait prudemment par derrière. « Asseyez-vous là, » dit-elle à Philippe en lui montrant un escabeau à trois pieds placé au coin d'une grande cheminée en pierre sculptée dont l'âtre propre n'avait pas de feu. De l'autre côté de cette cheminée était une table de noyer à pieds contournés sur laquelle se trouvait un œuf dans une assiette et 10 ou 12 petites mouillettes dures et sèches coupées avec une studieuse parcimonie. 2 escabelles, sur l'une desquelles s'assit la vieille, annonçaient que les avares étaient en train de souper. Cornelius alla pousser 2 volets de fer pour fermer sans doute les judas par lesquels il avait regardé si longtemps dans la rue, et vint reprendre sa place. Le prétendu Philippe Goulenoir vit alors le frère et la sœur trempant dans cet œuf, à tour de rôle, avec gravité, mais avec la même précision que les soldats mettent à plonger en temps égaux la cuillère dans la gamelle, leurs mouillettes respectives qu'ils teignaient à peine, afin de combiner la durée de l'œuf avec le nombre des mouillettes. Ce manège se faisait en silence. Tout en mangeant, Cornelius examinait le faux novice avec autant de sollicitude et de perspicacité que s'il eût pesé de vieux besans. Philippe, sentant un manteau de glace tomber sur ses épaules, était tenté de regarder autour de lui. Mais avec l'astuce que donne une entreprise amoureuse, il se garda bien de jeter un coup d'œil, même furtif, sur les murs, car il comprit que si Cornelius le surprenait, il ne garderait pas un curieux en son logis. Donc, il se contentait de tenir modestement son regard, tantôt sur l'œuf, tantôt sur la vieille fille, et parfois il contemplait son futur maître. L'argentier de Louis XI ressemblait à ce monarque. Il en avait même pris certains gestes, comme il arrive assez souvent aux gens qui vivent ensemble dans une sorte d'intimité. Les sourcils épais du flamand lui couvraient presque les yeux. Mais en les relevant un peu, il lançait un regard lucide, pénétrant et plein de puissance, le regard des hommes habitués au silence et auxquels le phénomène de la concentration des forces intérieures est devenu familier. Ses lèvres minces, arides verticales, lui donnaient un air de finesse incroyable. La partie inférieure du visage avait de vagues ressemblances avec le museau des renards, mais le front haut, bombé, tout plissé, semblait révéler de grandes et de belles qualités, une noblesse d'âme dont l'essor avait été modéré par l'expérience et que les cruels enseignements de la vie refoulaient sans doute dans les replis les plus cachés de cet être singulier. Ce n'était certes pas un avare ordinaire, et sa passion cachait sans doute de profondes jouissances, de secrètes conceptions. « À quel taux se font les sequins de Venise ?» demanda-t-il brusquement à son futur apprenti. « 3/4 à Bruges, 1 à Gand. Quel est le frais sur l'escaut ?»« 3 sous parisis. » »« Il n'y a rien de nouveau à Gand ?»
Le frère de Lieven d'Erde est ruiné.
« Ah !» Après avoir laissé échapper cette exclamation, le vieillard se couvrit les genoux avec un pan de sa dalmatique, espèce de robe en velours noir, ouverte par devant, à grandes manches et sans collet, dont la somptueuse étoffe était miroitée. Ce reste du magnifique costume qu'il portait jadis comme président du tribunal des Parchons, fonction qui lui avait valu l'inimitié du duc de Bourgogne, n'était plus alors qu'un haillon. Philippe n'avait point froid. Il suait dans son harnais, en tremblant d'avoir à subir d'autres questions. Jusque-là, les instructions sommaires qu'un juif auquel il avait sauvé la vie venait de lui donner la veille suffisaient grâce à sa mémoire et à la parfaite connaissance que le juif possédait des manières et des habitudes de Cornelius. Mais le gentilhomme qui,
dans le premier feu de la conception, n'avait douté de rien, commençait à entrevoir toutes les difficultés de son entreprise. La gravité solennelle, le sang-froid du terrible flamand agissaient sur lui. Puis, il se sentait sous les verrous et voyait toutes les cordes du grand prévôt aux ordres de maître Cornelius. « Avez-vous soupé ?» demanda l'argentier d'un ton qui signifiait « Ne soupez pas ». Malgré l'accent de son frère, la vieille tressaillit. Elle regarda ce jeune commensal comme pour jauger la capacité de cet estomac qu'il lui faudrait satisfaire, et dit alors avec un faux sourire « Vous n'avez pas volé votre nom. Vous avez des cheveux et des moustaches plus noirs que la queue du diable. »«
J'ai soupé, » répondit-il.
« Eh bien, » reprit l'avare, « vous reviendrez me voir demain. » Depuis longtemps, je suis habitué à me passer d'un apprenti. D'ailleurs, la nuit me portera conseil.
Eh, par Saint-Bavon, monsieur, je suis flamand. Je ne connais personne ici. Les chaînes sont tendues. Je vais être mis en prison.
Cependant, ajouta-t-il, effrayé de la vivacité qu'il mettait dans ses paroles, si cela vous convient, je vais sortir. Le juron influença singulièrement le vieux flamand.
« Allons, allons, par Saint-Bavon, vous coucherez ici. »«
Mais, » dit la sœur effrayée.
« Tais-toi, » répliqua Cornelius. « Par sa lettre, Osterlinck me répond de ce jeune homme. »«
N'avons-nous pas, » lui dit-il à l'oreille en se penchant vers sa sœur, « 100 000 livres à Osterlinck, c'est une caution, cela. » « Et s'il te vole les joyaux de Bavière ? Tiens, il ressemble mieux à un voleur qu'à un flamand. »«
Chut !» fit le vieillard en prêtant l'oreille.
Les deux avares écoutèrent, insensiblement, et un moment après, le chut, un bruit, produit par les pas de quelques hommes, retentit dans le lointain, de l'autre côté des fossés de la ville.
« C'est la ronde du Plessis, » dit la sœur.
« Allons, donne-moi la clé de la chambre aux apprentis, » reprit Cornelius. La vieille fit un geste pour prendre la lampe.
« Vas-tu nous laisser seuls sans lumière ?» cria Cornelius d'un son de voix intelligent.
« Tu ne sais pas encore à ton âge te passer d'ivoire ? Est-il donc si difficile de prendre cette clé ?»
La vieille comprit le sens caché sous ses paroles et sortit. En regardant cette singulière créature, au moment où elle gagnait la porte, Philippe Goulenoir put dérober à son maître le coup d'œil qu'il jeta furtivement sur cette salle. Elle était lambrissée en chêne à hauteur d'appui, et les murs étaient tapissés d'un cuir jaune orné d'arabesques noires. Mais ce qui le frappait le plus fut un pistolet à mèche, garni de son long poignard à détente. Cette arme nouvelle et terrible se trouvait près de Cornelius.
« Comment comptez-vous gagner votre vie ?» lui demanda le torsonnier.
« J'ai peu d'argent, » répondit Goulenoir, « mais je connais de bonnes rubriques. Si vous voulez seulement me donner un sou sur chaque marque que je vous ferai gagner, je serai content. »«
Un sou ? Un sou ?» répéta l'avare. « Mais c'est beaucoup !»
Là-dessus, la vieille Sibylle rentra.
« Viens, » dit Cornelius à Philippe. Ils sortirent sous le porche et montèrent une vis en pierre, dont la cage ronde se trouvait à côté de la salle dans une haute tourelle. Au premier étage, le jeune homme s'arrêta.
« Nenni !» dit Cornelius. « Diable, ce pourpris est le gîte où le roi prend ses ébats. » L'architecte avait pratiqué le logement de l'apprenti sous le toit pointu de la tour où se trouvait la vis. C'était une petite chambre ronde, toute en pierre, froide et sans ornement. Cette tour occupait le milieu de la façade située sur la cour, qui, semblable à toutes les cours de province, était étroite et sombre. Au fond, à travers des arcades grillées, se voyait un jardin chétif où il n'y avait que des mûriers, soignés sans doute par Cornelius.
Le gentilhomme remarqua tout par les jours de la vis, à la lueur de la lune qui jetait heureusement une vive lumière. Un grabat, une escabelle, une cruche et un bahut disjoint composaient l'ameublement de cette espèce de loge. Le jour n'y venait que par de petites baies carrées, disposées de distance en distance autour du cordon extérieur de la tour, et qui formaient sans doute des ornements, suivant le caractère de cette gracieuse architecture. Voilà votre logis. Il est simple, il est solide. Il renferme tout ce qu'il faut pour dormir. Bonsoir. N'en sortez pas comme les autres. Après avoir lancé sur son apprenti un dernier regard empreint de mille pensées, Cornélius ferma la porte à double tour, en emporta la clé et descendit, en laissant le gentilhomme aussi sot qu'un fondeur de cloche qui ne trouve rien dans son moule. Seul, sans lumière, assis sur une escabelle, et dans ce petit grenier d'où ses quatre prédécesseurs n'étaient sortis que pour aller à l'échafaud, le gentilhomme se vit comme une bête fauve prise dans un sac. Il sauta sur l'escabeau, se dressa de toute sa hauteur pour atteindre aux petites ouvertures supérieures d'où tombait un jour blanchâtre. Il aperçut la Loire, les beaux coteaux de Saint-Cyr et les sombres merveilles du Plessis, où brillaient deux ou trois lumières dans les enfoncements de quelques croisées. Au loin s'étendaient les belles campagnes de la Touraine et les nappes argentées de son fleuve. Les moindres accidents de cette jolie nature avaient alors une grâce inconnue. Les vitraux, les eaux, le faîte des maisons reluisaient comme des pierreries aux clartés tremblantes de la lune. L'âme du jeune seigneur ne put se défendre d'une émotion douce et triste. « Si c'était un adieu !» se dit-il. Il resta là, savourant déjà les terribles émotions que son aventure lui avait promises, et se livrant à toutes les craintes du prisonnier quand il conserve une lueur d'espérance. Sa maîtresse s'embellissait à chaque difficulté. Ce n'était plus une femme pour lui, mais un être surnaturel, entrevu à travers les brasiers du désir. Un faible cri qu'il crut avoir été jeté dans l'hôtel de Poitiers le rendit à lui-même et à sa véritable situation. En se remettant sur son grabat pour réfléchir à cette affaire, il entendit de légers frissonnements qui retentissaient dans la vis. Il écouta fort attentivement, et alors ces mots « Il se couche !» prononcés par la vieille parvinrent à son oreille. Par un hasard ignoré de l'architecte, le moindre bruit se répercutait dans la chambre de l'apprenti, de sorte que le faux goule noir ne perdit pas un seul des mouvements de l'avare et de sa sœur qui l'espionnaient. Il se déshabilla, se coucha, feignit de dormir, et employa le temps pendant lequel ses deux hôtes restèrent en observation sur les marches de l'escalier à chercher les moyens d'aller de sa prison dans l'hôtel de Poitiers. Vers 10 heures, Cornélius et sa sœur, persuadés que leur apprenti dormait, se retirèrent chez eux. Le gentilhomme étudia soigneusement les bruits sourds et lointains que firent les deux flamands et crut reconnaître la situation de leur logement. Ils devaient occuper tout le second étage. Comme dans toutes les maisons de cette époque, cet étage était pris sur le toit, d'où les croisées s'élevaient, ornées de tympans découpés par de riches sculptures. La toiture était bordée par une espèce de balustrade qui cachait les chéneaux destinés à conduire les eaux pluviales que des gouttières, figurant des gueules de crocodile, rejetaient sur la rue. Le gentilhomme, qui avait étudié cette topographie aussi soigneusement que l'eût fait un chat, comptait trouver un passage de la tour au toit et pouvoir aller chez madame de Saint-Vallier par les chéneaux en s'aidant d'une gouttière. Mais il ignorait que les jours de sa tourelle fussent si petits. Il était impossible d'y passer. Il résolut donc de sortir sur les toits de la maison par la fenêtre de la vis qui éclairait le palier du second étage. Pour accomplir ce hardi projet, il fallait sortir de sa chambre, et Cornélius en avait pris la clé. Par précaution, le jeune seigneur s'était armé d'un de ces poignards avec lesquels on donnait jadis le coup de grâce dans les duels à mort, quand l'adversaire vous suppliait de l'achever. Cette arme horrible avait un côté de la lame affilé comme l'aisselle d'un rasoir, et l'autre dentelé comme une scie, mais dentelé en sens inverse de celui que suivait le fer en entrant dans le corps. Le gentilhomme compta se servir du poignard pour scier le bois de la porte autour de la serrure. Heureusement pour lui, la gage de la serrure était fixée en dehors par 4 grosses vis. À l'aide du poignard, il put dévisser, non sans de grandes peines, la gage qui le retenait prisonnier, et posa soigneusement les vis sur le bahut. Vers minuit, il se trouva libre et descendit sans souliers afin de reconnaître les localités. Il ne fut pas médiocrement étonné de voir toute grande ouverte la porte d'un corridor par lequel on entrait dans plusieurs chambres, et au bout duquel se trouvait une fenêtre donnant sur l'espèce de vallée formée par les toits de l'hôtel de Poitiers et de la Malmaison qui se réunissaient là. Rien ne pourrait expliquer sa joie, si ce n'est le vœu qu'il fit aussitôt à la Sainte Vierge de fonder à Tours une messe en son honneur à la célèbre paroisse de l'Escrignole. Après avoir examiné les hautes et larges cheminées de l'hôtel de Poitiers, il revint sur ses pas pour prendre son poignard. Mais il aperçut, en frissonnant de terreur, une lumière qui éclaira vivement l'escalier, et il vit Cornélius lui-même en dalmatique, tenant sa lampe, les yeux bien ouverts et fixés sur le corridor, à l'entrée duquel il se montra comme un spectre. Ouvrir la fenêtre et sauter sur les toits, il m'entendra, se dit le gentilhomme. Et le terrible Cornélius avançait toujours. Il avançait comme avance l'heure de la mort pour le criminel. Dans cette extrémité, Goule Noir, servi par l'amour, retrouva toute sa présence d'esprit. Il se jeta dans l'embrasure d'une porte, s'y serra vers le coin et attendit l'avare au passage. Quand le torsonnier qui tenait sa lampe en avant se trouva juste dans le rhumbe du vent que le gentilhomme pouvait produire en soufflant, il éteignit la lumière. Cornélius grommela de vagues paroles et un juron hollandais. Mais il retourna sur ses pas. Le gentilhomme courut alors à sa chambre, y prit son arme, revint à la bienheureuse fenêtre, l'ouvrit doucement et sauta sur le toit. Une fois en liberté sous le ciel, il se sentit défaillir tant il était heureux. Peut-être l'excessive agitation dans laquelle l'avait mis le danger, ou la hardiesse de l'entreprise, causait-elle son émotion. La victoire est souvent aussi périlleuse que le combat. Il s'accota sur un chéneau, tressaillant d'aise, et se disant « Par quelle cheminée dévalerai-je chez elle ?» Il les regardait toutes. Avec un instinct donné par l'amour, il alla les tâter pour voir celles où il y avait eu du feu. Quand il se fut décidé, le hardi gentilhomme planta son poignard dans le joint de 2 pierres et accrocha son échelle, la jeta par la bouche de la cheminée et se hasarda, sans trembler, sur la foi de sa bonne lame, à descendre chez sa maîtresse. Il ignorait si Saint-Vallier serait éveillé ou endormi, mais il était bien décidé à serrer la comtesse dans ses bras. Dût-il en coûter la vie à 2 hommes? Il posa doucement les pieds sur des cendres chaudes. Il se baissa plus doucement encore et vit la comtesse assise dans un fauteuil. À la lueur d'une lampe, pâle de bonheur, palpitante, la craintive femme lui montra du doigt Saint-Vallier, couché dans un lit à 10 pas d'elle. Croyez que leur baiser brûlant et silencieux n'eut d'écho que dans leur cœur. Le lendemain, sur les 9 heures du matin, au moment où Louis XI sortit de sa chapelle après avoir entendu la messe, il trouva maître Cornélius sur son passage. « Bonne chance, mon compère, » dit-il sommairement en redressant son bonnet. « Sire, Je paierai bien volontiers 1000 écus d'or pour obtenir de vous un moment d'audience, vu que j'ai trouvé le voleur de la chaîne de rubis et de tous les joyaux de... »
Voyons cela, dit Louis XI en sortant dans la cour du Plessis, suivi de son argentier, de Coictier, son médecin, d'Olivier le Dain et du capitaine de sa garde écossaise.
« Conte-moi ton affaire. Nous aurons donc un pendu de ta façon.
Hola, Tristan !»
Le grand prévôt, qui se promenait de long en large dans la cour, vint à pas lents, comme un chien qui se carre dans sa fidélité. Le groupe s'arrêta sous un arbre, le roi s'assit sur un banc, et les courtisans décrivirent un cercle devant lui.
« Sire, un prétendu flamand m'a si bien entortillé !» dit Cornelius.
« Il doit être bien rusé, celui-là !» fit Louis XI en hochant la tête.
« Oh oui !» répondit l'argentier. « Mais je ne sais s'il ne vous engluerait pas vous-même. Comment pouvais-je me défier d'un pauvre air qui m'était recommandé par Austerlink, un homme à qui j'ai 100 000 livres ? Aussi gagerais-je que le sein du juif est contrefait. Bref, sire, ce matin, je me suis trouvé dénué de ces joyaux que vous avez admirés, tant ils étaient beaux. Ils m'ont été emblés, sire.
Emblés les joyaux de l'électeur de Bavière. Les truands ne respectent rien. Ils vous voleront votre royaume si vous n'y prenez garde.
Aussitôt, je suis monté dans la chambre où était cet apprenti, qui, certes, est passé maître en volerie. Cette fois, nous ne manquerons pas de preuves. Il a dévissé la serrure, mais quand il est revenu, comme il n'y avait plus de lune, il n'a pas su retrouver toutes les vis. Heureusement, en entrant, j'ai senti une vis sous mon pied. Il dormait, le truand, il était fatigué. Figurez-vous, messieurs, qu'il est descendu dans mon cabinet par la cheminée. Demain, ce soir plutôt, je la ferai griller. On apprend toujours quelque chose avec les voleurs.
Il a sur lui une échelle de soie, et ses vêtements portent les traces du chemin qu'il a fait sur les toits et dans la cheminée. Il comptait rester chez moi, me ruiner, le hardi compère. Où a-t-il enterré les joyaux ? Les gens de campagne l'ont vu de bonne heure revenant chez moi par les toits. Il avait des complices qui l'attendaient sur la levée que vous avez construite.
Ah, sire, vous êtes le complice des voleurs qui viennent en bateau. Et crac, ils emportent tout, sans laisser de traces. Mais nous tenons le chef, un hardi coquin, un gaillard qui ferait honneur à la mère d'un gentilhomme.
Ah, ce sera un beau fruit de potence. Et avec un petit bout de question, nous saurons tout.
Cela n'intéresse-t-il à la gloire de votre règne ?
Il ne devrait point y avoir de voleur sous un si grand roi.
Le roi n'écoutait plus depuis longtemps. Il était tombé dans une de ces sombres méditations qui devinrent si fréquentes pendant les derniers jours de sa vie. Un profond silence régna.
« Cela te regarde, mon compère, » dit-il enfin à Tristan. « Va grabeler cette affaire. »
Il se leva, fit quelques pas en avant, et ses courtisans le laissèrent seul. Il aperçut alors Cornelius, qui, monté sur sa mule, s'en allait en compagnie du grand prévôt.
« Et les 1000 écus ?» lui dit-il.
« Ah, sire, vous êtes un trop grand roi. Il n'y a pas de somme qui puisse payer votre justice. »
Louis XI sourit. Les courtisans envièrent le franc-parler et les privilèges du vieil argentier, qui disparut promptement dans l'avenue de Mûrier, plantée entre Tours et le Plessis. Épuisé de fatigue, le gentilhomme dormait, en effet, du plus profond sommeil. Au retour de son expédition galante, il ne s'était plus senti, pour se défendre contre des dangers lointains ou imaginaires auxquels il ne croyait peut-être plus, le courage et l'ardeur avec laquelle il s'était élancé vers de périlleuses voluptés. Aussi avait-il remis au lendemain le soin de nettoyer ses vêtements souillés et de faire disparaître les vestiges de son bonheur. Ce fut une grande faute, mais à laquelle tout conspira. En effet, quand, privé des clartés de la lune qui s'était couchée pendant la fête de son amour, il ne trouva pas toutes les vis de la maudite serrure.
il manqua de patience. Puis, avec le laisser-aller d'un homme plein de joie ou affamé de repos, il se fia au bon hasard de sa destinée, qu'il avait si heureusement servi jusque-là. Il fit bien avec lui-même une sorte de pacte, en vertu duquel il devait se réveiller au petit jour. Mais les événements de la journée et les agitations de la nuit ne lui permirent pas de se tenir parole à lui-même. Le bonheur est oublieux. Cornélius ne sembla plus si redoutable au jeune seigneur quand il se coucha sur le dur grabat d'où tant de malheureux ne s'étaient réveillés que pour aller au supplice. Et cette insouciance le perdit. Pendant que l'argentier du roi revenait de Plessis-les-Tours, accompagné du grand prévôt et de ses redoutables archers, le faux Goule Noir était gardé par la vieille sœur, qui tricotait des bas pour Cornélius, assise sur une des marches de la vis, sans se soucier du froid. Le jeune gentilhomme continuait les secrètes délices de cette nuit si charmante, ignorant le malheur qui accourait au grand galop. Il rêvait. Ses songes, comme tous ceux du jeune âge, étaient empreints de couleurs si vives qu'il ne savait plus où commençait l'illusion, où finissait la réalité. Il se voyait sur un coussin, au pied de la comtesse, la tête sur ses genoux, chaud d'amour. Il écoutait le récit des persécutions et les détails de la tyrannie que le comte avait fait jusqu'alors éprouver à sa femme. Il s'attendrissait avec la comtesse, qui était en effet celle de ces filles naturelles que Louis XI aimait le plus. Il lui promettait d'aller, dès le lendemain, tout révéler à ce terrible père. Ils en arrangeaient les vouloirs à leur gré, cassant le mariage et emprisonnant le mari, au moment où il pouvait être la proie de son épée au moindre bruit qui l'eût réveillé. Mais dans le songe, la lueur de la lampe, la flamme de leurs yeux, les couleurs des étoffes et des tapisseries étaient vives. Une odeur plus pénétrante s'exhalait des vêtements de nuit. Il se trouvait plus d'amour dans l'air, plus de feu autour d'eux qu'il n'y en avait eu dans la scène réelle. Aussi, la Marie du sommeil résistait-elle bien moins que la véritable Marie à ses regards langoureux, à ses douces prières, à ses magiques interrogations, à ses adroits silences, à ses voluptueuses sollicitations, à ses fausses générosités qui rendent les premiers instants de la passion si complètement ardents, et répandent dans les âmes une ivresse nouvelle à chaque nouveau progrès de l'amour. Suivant la jurisprudence amoureuse de cette époque, Marie de Saint-Vallier octroyait à son amant les droits superficiels de la petite oie. Elle se laissait volontiers baiser les pieds, la robe, les mains, le cou. Elle avouait son amour, elle acceptait les soins et la vie de son amant. Elle lui permettait de mourir pour elle. Elle s'abandonnait à une ivresse que cette demi-chasteté, sévère, souvent cruelle, allumait encore. Mais elle restait intraitable et faisait des plus hautes récompenses de l'amour le prix de sa délivrance. En ce temps, pour dissoudre un mariage, il fallait aller à Rome, avoir à sa dévotion quelques cardinaux et paraître devant le souverain pontife, armé de la faveur du roi. Marie voulait tenir sa liberté de l'amour pour la lui sacrifier. Presque toutes les femmes avaient alors assez de puissance pour établir au cœur d'un homme leur empire, de manière à faire d'une passion l'histoire de toute une vie, le principe des plus hautes déterminations. Mais aussi, les dames se comptaient en France. Elles y étaient autant de souveraines. Elles avaient de belles fiertés. Les amants leur appartenaient plus qu'elles ne se donnaient à eux. Souvent, leur amour coûtait bien du sang, et pour être à elle, il fallait courir bien des dangers. Mais, plus clémente et touchée du dévouement de son bien-aimé, la Marie du rêve se défendait mal contre le violent amour du beau gentilhomme. Laquelle était la véritable? Le faux apprenti voyait-il en songe la femme vraie? Avait-il vu dans l'hôtel de Poitiers une dame masquée de vertu?
La question est délicate à décider. Aussi, l'honneur des dames veut-il qu'elles restent en litige. Au moment où, peut-être, la Marie rêvée allait oublier sa haute dignité de maîtresse, l'amant se sentit pris par un bras de fer. Et la voix aigre-douce du grand prévôt lui dit « Allons, bon chrétien de minuit, qui cherchiez Dieu à tâtons, réveillons-nous » Philippe vit la face noire de Tristan et reconnut son sourire sardonique. Puis, sur les marches de la vis, il aperçut Cornelius, sa sœur, et derrière eux les gardes de la prévôté. À ce spectacle, à l'aspect de tous ces visages diaboliques qui respiraient ou la haine ou la sombre curiosité des gens habitués à pendre, Philippe Goulenoir se mit sur son séant et se frotta les yeux. « Par la mort Dieu !» s'écria-t-il en saisissant son poignard sous le chevet du lit. « Voici l'heure où il faut jouer des couteaux !»« Oh oh !» répondit Tristan. « Voici du gentilhomme. Il me semble voir Georges d'Étouville, le neveu du grand maître des arbalétriers. » En entendant prononcer son véritable nom par Tristan, le jeune d'Étouville pensa moins à lui qu'au danger que courait son infortunée maîtresse, s'il était reconnu. Pour écarter tout soupçon, il cria « Ventre Mahon, à moi les truands !» Après cette horrible clameur, jetée par un homme véritablement au désespoir, le jeune courtisan fit un bond énorme et, le poignard à la main, sauta sur le palier. Mais les acolytes du grand prévôt étaient habitués à ces rencontres. Quand Georges d'Étouville fut sur la marche, ils le saisirent avec dextérité, sans s'étonner du vigoureux coup de lame qu'il avait porté à l'un d'eux, et qui, heureusement, glissa sur le corselet du garde. Puis, ils le désarmèrent, lui lièrent les mains, et le rejetèrent sur le lit, devant leur chef immobile et pensif. Tristan regarda silencieusement les mains du prisonnier, et, se grattant la barbe, il dit à Cornelius en les lui montrant « Il n'a pas plus les mains d'un truand que celles d'un apprenti. C'est un gentilhomme. » Dites un gentilhomme ! S'écria douloureusement le torsonnier. Mon bon Tristan, noble ou serf, il m'a ruiné, le scélérat. Je voudrais déjà lui voir les pieds et les mains chauffés ou serrés dans vos jolis petits brodequins. Il est, à n'en pas douter, le chef de cette légion de diables invisibles ou visibles qui connaissent tous mes secrets, ouvrent mes serrures, me dépouillent et m'assassinent. Ils sont bien riches, mon compère. Ah, cette fois, nous aurons leur trésor, car celui-ci a la mine du roi d'Égypte. Je vais recouvrer mes chers rubis et mes notables sommes. Notre digne roi aura des écus à foison. Oh! « Nos cachettes sont plus solides que les vôtres, » dit Georges en souriant. « Ah, oh, le damné larron, il avoue !» s'écria l'avare. Le grand prévôt était occupé à examiner attentivement les habits de Georges d'Étouville et la serrure. « Est-ce toi qui as dévissé toutes ces clavettes ?» Georges garda le silence. « Oh, bien tais-toi, si tu veux. Bientôt tu te confesseras à Saint-Chevalet, » reprit Tristan. « Voilà qui est parlé !» s'écria Cornelius. « Emmenez-le !» dit le prévôt. Georges d'Étouville demanda la permission de se vêtir. Sur un signe de leur chef, les estafiers habillèrent le prisonnier avec l'habile prestesse d'une nourrice qui veut profiter, pour changer son marmot, d'un instant où il est tranquille. Une foule immense encombrait la rue du Mûrier. Les murmures du peuple allaient grossissant, et paraissaient les avant-coureurs d'une sédition. Dès le matin, la nouvelle du vol s'était répandue dans la ville. Partout, l'apprenti, que l'on disait jeune et joli, avait réveillé les sympathies en sa faveur et ranimé la haine vouée à Cornelius. En sorte qu'il ne fut fils de bonne mère, ni jeune femme ayant de jolis patins et une mine fraîche à montrer, qui ne voulussent voir la victime. Quand Georges sortit, emmené par un des gens du prévôt, qui, tout en montant à cheval, gardait, entortillait à son bras la forte lanière de cuir avec laquelle il tenait le prisonnier dont les mains avaient été fortement liées, il se fit un horrible brouhaha. Soit pour revoir Philippe Goulenoir, soit pour le délivrer, les derniers venus poussèrent les premiers sur le piquet de cavalerie qui se trouvait devant la malmaison. En ce moment, Cornelius, aidé par sa sœur, ferma sa porte et poussa ses volets avec la vivacité que donne une terreur panique. Tristan, qui n'avait pas été accoutumé à respecter le monde de ce temps-là, vu que le peuple n'était pas encore souverain, ne s'embarrassait guère d'une émeute. « Poussez, poussez !» dit-il à ses gens. À la voix de leur chef, les archers lancèrent leurs montures vers l'entrée de la rue. En voyant un ou deux curieux tomber sous les pieds des chevaux et quelques autres violemment serrés contre les murs où ils étouffaient, les gens attroupés prirent le sage parti de rentrer chacun chez eux. « Place à la justice du roi !» criait Tristan. « Qu'avez-vous besoin ici? Voulez-vous qu'on vous pende? Allez chez vous, mes amis, votre rôti brûle. Hé, la femme, les choses de votre mari sont trouées. Retournez à votre aiguille. » Quoique ces dires annonçassent que le grand prévôt était de bonne humeur, il faisait fuir les plus empressés, comme s'il eût lancé la peste noire. Au moment où le premier mouvement de la foule eut lieu, Georges des Touteville était resté stupéfait en voyant à l'une des fenêtres de l'hôtel de Poitiers sa chère Marie de Saint-Vallier, riant avec le comte. Elle se moquait de lui, pauvre amant dévoué, marchant à la mort pour elle. Mais peut-être aussi s'amusait-elle de ceux dont les bonnets étaient emportés par les armes des archers. Il faut avoir 23 ans, être riche en illusions, oser croire à l'amour d'une femme, aimer de toutes les puissances de son être, avoir risqué sa vie avec délices sur la foi d'un baiser, et s'être vu trahi pour comprendre ce qu'il entra de rage, de haine et de désespoir au cœur de Georges des Touteville, à l'aspect de sa maîtresse, rieuse, de laquelle il reçut un regard froid et indifférent. Elle était là sans doute depuis longtemps, car elle avait les bras appuyés sur un coussin. Elle y était à son aise, et son vieillard paraissait content. Il riait aussi, le bossu maudit. Quelques larmes s'échappèrent des yeux du jeune homme, mais quand Marie de Saint-Vallier le vit pleurant, elle se rejeta vivement en arrière. Puis, les pleurs de Georges se séchèrent tout à coup. Il entrevit les plumes noires et rouges du page qui lui était dévoué. Le comte ne s'aperçut pas de la venue de ce discret serviteur qui marchait sur la pointe des pieds. Quand le page eut dit deux mots à l'oreille de sa maîtresse, Marie se remit à la fenêtre. Elle se déroba au perpétuel espionnage de son tyran et lança sur Georges un regard où brillait la finesse d'une femme qui trompe son argus, le feu de l'amour et les joies de l'espérance. « Je veille sur toi !» Ce mot, crié par elle, n'eût pas exprimé autant de choses qu'en disait ce coup d'œil empreint de 1000 pensées, et où éclataient les terreurs, les plaisirs, les dangers de leur situation mutuelle. C'était passer du ciel au martyr et du martyr au ciel. Aussi le jeune seigneur, léger, content, marcha-t-il gaiement au supplice, trouvant que les couleurs de la question ne paierait pas encore les délices de son amour. Comme Tristan allait quitter la rue du Mûrier, ses gens s'arrêtèrent à l'aspect d'un officier des gardes écossaises qui accourait à bride abattue. « Qu'y a-t-il ? » demanda le prévôt. « Rien qui vous regarde, » répondit dédaigneusement l'officier. « Le roi m'envoie quérir le comte et la comtesse de Saint-Vallier, qu'il convie à dîner. » À peine le grand prévôt avait-il atteint la levée du Plessis que le comte et sa femme, tous deux montés, elle sur une mule blanche, lui sur son cheval, et suivis de deux pages, rejoignirent les archers afin d'entrer tous de compagnie au Plessis-les-Tours. Tous allaient assez lentement. Georges était à pied entre deux gardes, dont l'un le tenait toujours par sa lanière. Tristan, le comte et sa femme étaient naturellement en avant, et le criminel les suivait. Mêlé aux archers, le jeune page les questionnait, et parlait aussi parfois aux prisonniers, de sorte qu'il saisit adroitement une occasion de lui dire à voix basse « J'ai sauté par-dessus les murs du jardin, et suis venu apporter au Plessis une lettre écrite au roi par madame. Elle a pensé mourir en apprenant le vol dont vous êtes accusé. Ayez bon courage, elle va parler de vous. » Déjà, l'amour avait prêté sa force et sa ruse à la comtesse. Quand elle avait ri, son attitude et ses sourires étaient dus à cet héroïsme que déploient les femmes dans les grandes crises de leur vie. Malgré la singulière fantaisie que l'auteur de Quentin d'Urvarde a eu de placer le château royal de Plessis-les-Tours sur une hauteur, il faut se résoudre à le laisser où il était à cette époque, dans un fond, protégé de deux côtés par le Cher et la Loire, puis par le canal Sainte-Anne, ainsi nommé par Louis XI en l'honneur de sa fille chérie, Madame de Beaujeu. En réunissant les deux rivières entre la ville de Tours et le Plessis, ce canal donnait tout à la fois une redoutable fortification au château fort et une route précieuse au commerce. Du côté du Bréhémont, vaste et fertile plaine, le parc était défendu par un fossé dont les vestiges accusent encore aujourd'hui la largeur et la profondeur énormes. À une époque où le pouvoir de l'artillerie était à sa naissance, la position du Plessis, dès longtemps choisie par Louis XI pour sa retraite, pouvait alors être regardée comme inexpugnable. Le château, bâti de briques et de pierres, n'avait rien de remarquable, mais il était entouré de beaux ombrages, et de ses fenêtres, l'on découvrait par les percées du parc les plus beaux points de vue du monde. Du reste, nulle maison rivale ne s'élevait auprès de ce château solitaire, placé précisément au centre de la petite plaine réservée au roi par quatre redoutables enceintes d'eau. S'il faut en croire les traditions, Louis XI occupait l'aile occidentale, et de sa chambre, il pouvait voir tout à la fois le cours de la Loire, de l'autre côté du fleuve, la jolie vallée qu'arrose la Choisille, et une partie des coteaux de Saint-Cyr. Puis, par les croisées qui donnaient sur la cour, il embrassait l'entrée de sa forteresse et la levée par laquelle il avait joint sa demeure favorite à la ville de Tours. Le caractère défiant de ce monarque donne de la solidité à ses conjectures. D'ailleurs, si Louis XI eût répandu dans la construction de son château le luxe d'architecture que plus tard déploya François Ier à Chambord, la demeure des rois de France n'eût été pour toujours acquise à la Touraine. Il suffit d'aller voir cette admirable position et ses magiques aspects pour être convaincu de sa supériorité sur tous les sites des autres maisons royales. Louis XI, arrivé à la 57e année de son âge, avait alors à peine 3 ans à vivre. Il sentait déjà les approches de la mort au coup que lui portait la maladie. Délivré de ses ennemis, sur le point d'augmenter la France de toutes les possessions des ducs de Bourgogne, à la faveur d'un mariage entre le dauphin et Marguerite, héritière de Bourgogne, ménagée par les soins de Descaerde, le commandant de ses troupes en Flandre. Ayant établi son autorité partout, méditant les plus heureuses améliorations, il voyait le temps lui échapper et n'avait plus que les malheurs de son âge. Trompé par tout le monde, même par ses créatures, l'expérience avait encore augmenté sa défiance naturelle. Le désir de vivre devenait en lui l'égoïsme d'un roi qui s'était incarné à son peuple, et il voulait prolonger sa vie pour achever de vastes desseins. Tout ce que le bon sens des publicistes et le génie des révolutions a introduit de changement dans la monarchie, Louis XI le pensa. L'unité de l'impôt, l'égalité des sujets devant la loi, alors le prince était la loi, furent l'objet de ses tentatives hardies. La veille de la Toussaint, il avait mandé de savants orfèvres afin d'établir en France l'unité des mesures et des poids, comme il y avait établi déjà l'unité du pouvoir. Ainsi, cet esprit immense planait en aigle sur tout l'Empire, et Louis XI joignait alors à toutes les précautions du roi les bizarreries naturelles aux hommes d'une haute portée. À aucune époque, cette grande figure n'a été ni plus poétique ni plus belle. Assemblage inouï de contrastes. Un grand pouvoir dans un corps débile, un esprit incrédule aux choses d'ici-bas, crédule aux pratiques religieuses, un homme luttant avec deux puissances plus fortes que les siennes, le présent et l'avenir. L'avenir où il redoutait de rencontrer des tourments et qui lui faisait faire tant de sacrifices à l'Église. Le présent, où sa vie elle-même, au nom de laquelle il obéissait à Coictier. Ce roi qui écrasait tout était écrasé par des remords, et plus encore par la maladie, au milieu de toute la poésie qui s'attache au roi soupçonneux en qui le pouvoir s'est résumé. C'était le combat gigantesque et toujours magnifique de l'homme, dans la plus haute expression de ses forces, joutant contre la nature. En attendant l'heure fixée pour son dîner, repas qui se faisait à cette époque entre 11 heures et midi, Louis XI, revenu d'une courte promenade, était assis dans une grande chaire de tapisserie au coin de la cheminée de sa chambre. Olivier Le Dain et le médecin Coictier se regardaient tous deux sans mot dire et restaient debout dans l'embrasure d'une fenêtre en respectant le sommeil de leur maître. Le seul bruit que l'on entendit était celui que faisaient, en se promenant dans la première salle, deux chambellans de service, le sire de Montrésor et Jean Dufou, sire de Montbazon. Ces deux seigneurs tourangeaux regardaient le capitaine des Écossais, probablement endormi dans son fauteuil, suivant son habitude. Le roi paraissait assoupi, sa tête était penchée sur sa poitrine. Son bonnet, avancé sur le front, lui cachait presque entièrement les yeux. Ainsi posé dans sa haute chaire surmontée d'une couronne royale, il semblait ramassé comme un homme qui s'est endormi au milieu de quelques méditations. En ce moment, Tristan et son cortège passaient sur le pont Sainte-Anne, qui se trouvait à 200 pas de l'entrée du Plessis, sur le canal. « Qui est-ce ? » dit le roi. Les deux courtisans s'interrogèrent par un regard avec surprise. « Il rêve !» dit tout bas Coictier. « Pasque Dieu !» reprit Louis XI. « Mais croyez-vous fou ? Il passe du monde sur le pont. Il est vrai que je suis près de la cheminée et que je dois en entendre le bruit plus facilement que vous autres. Cet effet de la nature pourrait s'utiliser. »«
Quel homme !» dit le Dain.
Louis XI se leva. Alla vers celle de ses croisées par laquelle il pouvait voir la ville. Alors il aperçut le grand prévôt et dit « Ah, voici mon compère avec son voleur. Voilà de plus ma petite Marie de Saint-Vallier. J'ai oublié toute cette affaire. Olivier, reprit-il en s'adressant au barbier, va dire à monsieur de Montbazon qu'il nous fasse servir du bon vin de Bourgueil à table. Vois à ce que le cuisinier ne nous manque pas la lamproie. C'est deux choses que madame la comtesse aime beaucoup.
Puis-je manger de la lamproie ? Ajouta-t-il après une pause en regardant Coictier d'un air inquiet.
Pour toute réponse, le serviteur se mit à examiner le visage de son maître. Ces deux hommes étaient à eux seuls un tableau. Les romanciers et l'histoire ont consacré le surtout de camelot brun et le haut de chausses de même étoffe que portait Louis XI. Son bonnet garni de médailles en plomb et son collier de l'ordre de Saint-Michel ne sont pas moins célèbres. Mais aucun écrivain, nul peintre, n'a représenté la figure de ce terrible monarque à ses derniers moments. Figure maladive, creusée, jaune et brune, dont tous les traits exprimaient une ruse amère,
une ironie froide. Il y avait dans ce masque un front de grand homme, front sillonné de rides et chargé de hautes pensées. Puis, dans ses joues et sur ses lèvres, je ne sais quoi de vulgaire et de commun. À voir certains détails de cette physionomie, vous eussiez dit un vieux vigneron débauché, un commerçant avare. Mais à travers ces ressemblances vagues et la décrépitude d'un vieillard mourant, le roi, l'homme de pouvoir et d'action, dominait. Ses yeux, d'un jeune clair, paraissaient éteints, mais une étincelle de courage et de colère y couvait, et au moindre choc, il pouvait en jaillir des flammes à tout embraser. Le médecin était un gros bourgeois, vêtu de noir, à face fleurie, tranchant, avide et faisant l'important. Ces deux personnages avaient pour cadre une chambre boisée en noyer, tapissée en tissu de haute lisse de Flandre, et dont le plafond, formé de solives sculptées, était déjà noirci par la fumée. Les meubles, le lit, tous incrustés d'arabesques en étain, paraîtraient aujourd'hui plus précieux peut-être qu'ils ne l'étaient réellement à cette époque, où les arts commençaient à produire tant de chefs-d'œuvre. « La lamproie ne vous vaut rien, » répondit le physicien. Ce nom, récemment substitué à celui de maître Mire, est resté au docteur en Angleterre. Le titre était alors donné partout aux médecins. « Et que mangerai-je ? » demanda humblement le roi. « De la macreuse au sel. Autrement, vous avez tant de bile en mouvement que vous pourriez mourir le jour des morts. » « Aujourd'hui ? » s'écria le roi frappé de terreur. « Eh, sire, rassurez-vous, reprit Coictier, je suis là. Tâchez de ne point vous tourmenter, et voyez à vous égayer. »« Ah ! » dit le roi, « ma fille réussissait jadis à ce métier difficile. » Là-dessus, Humbert de Bastarnais, sire de Montrésor et de Bridoré, frappa doucement à l'huis royale. Sur le permis du roi, il entra pour lui annoncer le comte et la comtesse de Saint-Vallier. Louis XI fit un signe, Marie parut, suivie de son vieil époux, qui la laissa passer la première.